Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse et on commente l'actualité de la semaine. Et cette semaine, avec moi, comme à chaque semaine, hein, panéliste de renom, cette semaine, c'est le retour de Joannie Riendeau. Bonjour, Joannie.
Bonjour. C'est toujours un plaisir de passer après Patrice et passer ma journée d'enregistrement avec toi.
Bon, c'est gentil. Hein? Moi, je trouve ça un peu lourd. non, c'est pas vrai.
Que veux-tu, hein? À toi et moi, on est dû pour se parler longtemps.
Oui, oui, non, il est tôt ce matin, donc on fait des blagues. Bienvenue à vous, hein? Ben, c'est comme on disait, on va analyser l'actualité, on va dire ce qu'on en pense, on va apporter une réflexion. On espère que ça va un peu aiguiller vos lectures, votre compréhension du monde.
Devenir curieux.
Devenir curieux, c'est important. C'est l'idée derrière tout ça. Et avant, on va parler parce qu'on est en pleine semaine de relâche. Tu fais
oui.
quoi de ta semaine de relâche, toi?
Ma semaine de relâche, j'ai de la visite.
Oui?
Oui, mon beau-frère qui a 14 ans vient passer la semaine au Lac-Saint-Jean alors qu'il vient du sud de la Montérégie. Pour lui, c'est tout qu'un changement la quantité de neige qu'on a ici.
Ouais.
Il a vraiment adoré sa semaine, mais c'est mon expert en Fortnite puis en Red Dead Redemption 2. Donc, il est tranquille, il s'occupe des fois de sa filleule, puis on aime bien ça.
C'est génial.
Oui.
Wow.
Et toi?
Moi, famille, soirée de jeu avec des amis. Ah. Et puis, mon plus petit va avoir 4 ans, donc on va fêter ça en grand.
Ah.
Oui, grosse fête en vue. Ça va barder. Bon, lançons-nous maintenant dans l'actualité. La SADC a organisé une formation
oui.
l'an dernier sur le marketing territorial.
Bon. C'est pas tant une formation qu'une consultation.
OK.
Donc, ça a été une animation que j'ai...
Avant oui. tout ça, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la SADC? C'est quoi son rôle?
C'est la Société d'aide au développement des communautés.
OK.
Des collectivités, plus exactement. La SADC, c'est un organisme local qu'on retrouve plusieurs branches à travers le Québec qui aide les organisations, donc ça peut être des municipalités, des organismes non lucratifs ou des entreprises en démarrage, pour les aider à bien s'implanter dans les communautés, dans les collectivités. Okay. Donc, que ce soit dans la matière de financement pour certains projets ou encore, comme on va parler aujourd'hui, des formations qui sont mises à la disposition des différents acteurs du milieu.
OK. Bon. Puis quand on parle de marketing territorial, de quoi on parle?
Le marketing territorial, c'est une distinction du marketing bien particulier parce qu'on fait la promotion d'un territoire comme milieu de vie.
Okay.
Par exemple, on a déjà une stratégie qu'on connaît bien qui ose le pays des bleuets, mais le marketing territorial peut prendre différentes tailles de territoire. Et la formation que les gens ont pu accéder en fin de semaine dernière, c'était sur le marketing, mais sur le thème du maire, sur la ville par municipalité.
Okay.
Donc, qu'est-ce qui distingue notre municipalité de notre municipalité voisine? Qu'est-ce qui fait qu'on est complémentaire, qu'on s'entraide?
Ouais, on ça met pas les municipalités en compétition, on parle plus de complémentarité.
De complémentarité, et j'ai bien aimé la conférencière qui disait que c'était de la coopétition.
Ah!
Donc, on a de la compétition sur certains enjeux, par exemple, sur avoir le plus de citoyens possible, de gens qui habitent sur notre territoire, mais... Par exemple, j'ai trouvé un exemple très intéressant. Saint-Thomas-du-Dîme et Normandin. Ben, Saint-Thomas-du-Dîme n'a pas les installations pour avoir un parc industriel. Mais Normandin n'a pas les installations ou le territoire pour faire de la villégiature, pour que les gens accèdent à un chalet.
Oui, oui,
donc, de la coopétition. Ils s'entraident parce que c'est des distances qui sont très raisonnables, puis ils sont capables de répondre mutuellement à leurs besoins de leurs citoyens.
Puis comme les municipalités sont relativement près, on est capable aussi de se spécialiser dans quelque chose en se disant, ben nous, on va prendre ce créneau-là, puis on va laisser les autres créneaux aux autres municipalités. C'est
oui, puis d'avoir une saine compétition tout en soulignant la coopération entre les différents secteurs. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant de la formation de Mme Mirabel. Moi, j'y étais en tant que Ose le Pays des Bleus avec les différents membres de l'équipe. Mais on a quand même eu la chance d'avoir 9 municipalités sur les 15 de la MRC Maria-Chapdelaine qui étaient présentes pour parler de ces différents sujets. Puis c'était très intéressant de voir aussi. Il y a des municipalités qui se sont aperçues que si on prenait 5 critères qui les distinguaient des autres, bien, c'était la même chose pour plusieurs municipalités dans un même coin. Donc, ils ont comme eu de la difficulté à trouver c'était quoi leur point, leur différence face aux municipalités avoisinantes. Donc, j'ai trouvé que c'était un très bon, une très belle source de réflexion à faire dans notre communauté. Puis, Ose le Pays des Bleuets, on était fiers d'être partenaires pour ça parce que ça nous a permis d'avoir un autre angle de vue. Ose le Pays des Bleuets, c'est du marketing territorial, mais le comté de Roberval au complet.
Ouais, ouais.
Donc, c'est une signature. On veut fédérer les municipalités et les employeurs sous une même image. Alors, le fait qu'on mette plus l'axe sur les municipalités, comment elles peuvent se distinguer, ben j'ai trouvé ça très intéressant, puis c'était un bel ajout à la programmation de formation de la SADC, Maria-Chapdelaine.
Ouais. Parce qu'à quelque part, la municipalité, comme tu disais, là, qui regarde qu'est-ce qui la distingue, puis elle s'aperçoit qu'elle est pareille à certaines autres, donc pour quelqu'un qui va aller s'installer, ça pèse le même poids dans la balance, là.
Oui.
Donc, il faut qu'il trouve autre chose pour se distinguer, c'est ça?
Oui, puis par exemple, Saint-Thomas-du-Dim, parce qu'on travaille beaucoup ces temps-ci avec eux, bien, ils se sont aperçus que c'est la proximité de la communauté. Parce que oui, il y a un centre villageois, mais oui. les citoyens se connaissent plus aussi, se connaissent entre eux. Donc, c'est pas seulement le territoire, c'est les gens qui habitent le territoire aussi qui est une valeur ajoutée. Donc, c'est intéressant de pousser cette réflexion-là, puis j'ai trouvé ça très intéressant aussi, les échanges entre les municipalités. Tu sais, par exemple, on serait pas douté, mais Péribonka et Normandin ont chacun un point commun.
C'est les portes d'entrée de
C'est ça. C'est les portes d'entrée de la MRC, puis ils se partagent cette force-là puis cette fierté-là. Péribonka, c'est vraiment plus un tourisme, puis Normandin, c'est une porte d'entrée pour le milieu agricole, surtout avec la ferme de recherche et autres. Donc, c'était très intéressant de voir comment les échanges se sont construits. Puis sur place, il y avait Hausse de Pays des Bleuets, mais il y avait aussi des membres de la MRC. Il y avait vraiment différents acteurs très intéressants. Parce que c'est pas juste une formation où Mme Mirabel parlait devant tout le monde. On a eu beaucoup d'interactions tout au long de la journée. Je félicite aussi les gens, les représentants municipaux qui ont choisi de venir un samedi. Le premier samedi de la semaine de relâche. Pour venir discuter de ça toute une journée complète en montage de départ. Donc, c'est une preuve que les gens d'ici, nos politiciens d'ici, souhaitent que nos communautés, que notre territoire puisse offrir son plus-value qu'il mérite. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui choisissent de venir s'installer ici. C'est pas pour rien. Alors, c'est à votre tour de trouver c'est quoi qui fait que on vous attirez la bonne personne dans votre communauté aussi. Parce que on se le cachera pas, on peut attirer plein de monde. Mais si on les garde pas aussi, on n'attire pas la personnalité qui fit avec la communauté, ben on n'a pas des gens qui durent bien longtemps, qui vont rester bien longtemps. Donc, c'est très intéressant. La formation, c'était pas juste comme... regardons l'accueil, l'attraction. Il y avait l'hospitalité puis l'intégration dans les communautés. Donc, c'était vraiment très intéressant. Félicitations à la SADC et à Mme Mirabel d'avoir présenté tout ça.
Part, puis ça me donne le goût d'être là.
C'est super intéressant.
Que j'ai manqué quelque chose. Non, mais je pense que c'est super utile. Puis de plus en plus, je pense qu'il faut penser nos municipalités, mais en termes de territoire. Là, la géographie est hyper importante.
Oui, mais j'ai bien aimé le terme « coopétition ». C'est pas de la coopération, c'est pas de la compétition.
C'est entre les deux.
C'est entre les deux. On a nos forces, on a nos faiblesses, puis au lieu de se regarder qui va avoir le plus de citoyens, c'est qui va rendre le plus heureux ses citoyens.
Génial.
Oui, c'était vraiment très intéressant.
Moins bonne nouvelle, on va parler de la fermeture temporaire de la papetière de Bolbeau à cause des blocus ferroviaires. On va reparler là, sur l'enjeu de la crise autochtone plus tard. Les blocages. Excuse. On va parler de la crise autochtone plus tard, mais là, je veux qu'on parle plus de l'incidence que ça a à Dolbeau-Mistassini. Puis, je lisais une analyse assez intéressante qui disait qu'en général, depuis certaines années, les Autochtones avaient une meilleure compréhension des gens, puis les gens se ralliaient à leur point de vue de plus en plus. Mais en laissant traîner ce genre de situation-là, là, on voit que quand ça vient nous toucher personnellement, là, notre opinion change. C'est normal. Là, quand tu perds ta job à cause des revendications d'autres personnes, ben je peux comprendre la personne qui est fâchée. Là.
Je comprends la réaction, mais moi, ce que je suis témoin, puis je parle vraiment plus de mon entourage proche, ce que je suis témoin, c'est qu'on passe de... Je comprends les Autochtones, ça s'étire. On est tanné, donc on prend un bouc émissaire qui est les Autochtones. Mais plus on apprend dans les médias, plus on contacte, plus on discute entre nous, plus les gens font comme « je suis tanné de ce gouvernement-là qui niaise avec la POC ».
Ouais.
Donc, c'est comme une vague, comme si les Autochtones deviennent un bouc émissaire pendant un certain temps, mais dès qu'on est plus sensibilisé à la cause derrière, bien là, on s'aperçoit que non, c'est pas aux Autochtones
C'est au gouvernement des 150 dernières années.
Au gouvernement, puis aux entreprises qui abusent de la position qu'un gouvernement leur donne.
Ouais.
Il y a ça aussi. Donc, oui, on a vu je vais dire, des dérives pour
oh,
ne
oui,
pas...
On a clairement vu une montée
du radicalisme.
Un retour du...
Du racisme radical. Ouais. Puis,
des trucs pas très cool, là, même de la part de journalistes ou de chroniqueurs.
Oh non, puis c'était violent.
Ouais,
je dirais carrément que... violent.
Moi, je pense que la violence, ça réglera jamais rien. Là.
Oh non, puis au contraire, ça fait juste alimenter. Si on alimente un feu qui est inutile d'alimenter. Puis,
mais on l'a vu d'ailleurs quand les policiers sont allés démanteler la barricade
à Saint-Lambert.
Pas à Saint-Lambert, celle en Ontario,
oui.
À Belleville. Le lendemain, il y avait 4 nouvelles barricades ailleurs. T'sais, je veux dire, c'est pas la manière de régler un problème. Là.
Non, c'est pas la manière, mais là, on a comme.
Mais là, ça a des incidences directement dans notre
oui,
communauté ici.
Ben, ça a une incidence, oui. Oui, puis ça nous touche directement parce qu'on parle quand même de l'employabilité. On parle quand même d'une entreprise qui a une grande, qui est importante dans la vitalité économique de notre territoire. On parlait du territoire, oui, de notre territoire. Cependant, c'est pas un blocage qui va durer indéfiniment, mais je pense aussi qu'il y a une fonction stratégique dans le fait d'arrêter l'usine de Dolbo-Mistassini dans cette période-ci aussi.
Okay.
Oui, il y a un départ, on n'a pas les installations pour faire partir d'une autre façon que le train.
Okay.
Mais c'est quand même un bon timing pour résoluer pour faire les rénovations nécessaires.
Ah oui, oui. Donc, on va joindre l'utile au désagréable.
Oui, bien, tant qu'à être pogné avec du surplus de stock, puis de pas, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle
un shutdown,
changer des équipements, faire du nettoyage? Parce que là, il y a un aspect politique qui est intéressant. Ils vont être capables d'aller chercher des dédommagements au gouvernement. Vous avez laissé traîner ça,
ouais.
Bien, vous devez dédommager nos gars.
Mm-hmm.
Bien, nous, pendant ce temps-là...
On a fait la job qu'on aurait dû faire de toute façon.
Qu'on aurait dû faire de toute façon, puis on va profiter du fait que l'usine doit être arrêtée pour une autre raison, pour faire des renouvellements.
Ah oui.
Donc, tu sais, c'est quand même une réalité aussi, parce que sans donner mes sources, je sais qu'il y a plusieurs de ces shutdowns-là qui étaient déjà prévus bien avant le début du blocage. Même avant que le blocage était prévu, même avant qu'on commence à entendre parler de peut-être un potentiel blocage, que ce soit des shutdowns d'une telle ampleur, je crois pas que c'était prévu, mais tant qu'à avoir des problèmes au niveau du ravitaillement comme la sortie de notre stock, ben pourquoi ne pas faire un gros shutdown? Pourquoi ne pas profiter de l'entretien de nos équipements? Donc, tu sais, faut pas penser, parce qu'on voit dans les médias faire un lien, que ça a arrêté, que c'est absolument ça. Je pense que c'est... Et je ne suis pas dans l'équipe de Résolu. Je vous parle vraiment de ma perception extérieure à 100%. Mais c'est sûrement ça qui s'est passé, là, pour qu'ils décident, on va fermer l'usine au complet. Quelles sont les occasions où on peut fermer une usine qui fonctionne aussi bien de Dolbo-Mistassini au complet? Pour faire un entretien, pour faire des entretiens majeurs. On ne parle pas de changer de machinerie, là. On parle vraiment de faire du gros nettoyage, là, qu'on n'a pas souvent l'occasion.
Le ménage du printemps.
Oui, puis je pense que c'est joindre l'utile à l'agréable, mais en plus de se donner des outils politiques pour se dire quand le blocage va repartir. Un, on va avoir des équipements qui vont être en meilleur état, mais on va pouvoir dire au gouvernement, ah, c'est de votre faute si on aura...
On est allé chercher des compensations en même temps.
Eh oui, c'est ça. Je sais que ça peut être frustrant pour les travailleurs qui sont...
Ben, clairement.
Qui sont dans cette situation-là. Mais dites-vous au moins que vous avez une date de retour.
Ouais.
Si on pense, par exemple, à la série de Saint-Thomas-Didyme, les autres ne savent pas que c'est quand ça va revenir. On parle de Résolu aussi.
Ouais.
Alors que Dolbo-Mistassini, on sait que dès que le transport ferroviaire va repartir, ben, vous allez recommencer à travailler aussi. Il y a plusieurs entreprises qui vivent cette situation-là aussi. Donc... Moi, je me dis qu'on est quand même privilégié. Je ne travaille pas dans l'usine, mais puis mon travail n'a pas de lien ou de retombée directe avec ça. Je parle selon ma perception. Mais ma perception me dit que c'est peut-être un moindre mal pour régler un problème qui dure depuis plus longtemps.
On va suivre le dossier.
Oui.
De toute façon, on va revenir sur la crise autochtone là, après la pause, tout à l'heure. Parlons maintenant de Nutrinor. Un Nutrinor qui se positionne avantageusement au Canada comme un des plus gros producteurs de poulets sans antibiotiques. Et là, ils sont en train de devenir aussi biologiques. Wow, je suis content. Moi, on dirait que la région, on avait vu la semaine dernière que on avait parlé avec Patrice que la région, c'était l'endroit au Québec où il y avait le plus d'hectares de production bio.
Savais-tu que c'était un argument de vente pour les gens qui veulent venir s'installer ici?
Oui, mais clairement.
Oui. C'est incroyable.
Le Nutrinor qui travaille beaucoup à nous donner des aliments donc, qui sont, je dirais, cultivés, élevés ici et en plus qui sont bons pour la santé.
Et qui valorisent les entreprises d'ici. Puis on parle à travers le Québec parce que Nutrinor vient de la région.
Ouais.
Puis a pris en fait des acquisitions de petites fromageries qui est ce qu'elles font.
Boulangerie, charcuterie, on travaille dans l'agroalimentaire.
Ce qui est intéressant dans leur principe de développement, c'est qu'ils permettent aux gens de dire, on rachète, mais vous êtes encore chef de votre organisation. Donc, c'est moins de pression pour le propriétaire parce qu'il peut continuer. Mais c'est qui est tenu par une coopérative. Parce qu'il ne faut pas oublier, Nutrinor, c'est une coopérative.
Tout le monde travaille ensemble.
Tout le monde travaille sur la valeur du local, de la réussite locale.
Je trouve aussi que c'est un pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, il y a quelques années de ça, Carl Bouchard qui disait pour 2050, il faudrait que la région, tu sais, on ait une opération d'origine contrôlée, genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne fait que du bio. Ben, je trouve qu'on va dans cette direction-là. Naturellement, puis en plus, la population, on est tellement fiers de nos petits commerces locaux qu'on participe, on y va, on achète des produits locaux, fait qu'on encourage, puis ça fait comme une économie cyclique basée sur des valeurs saines.
Puis on donne de plus en plus de visibilité à nos fermiers de famille.
Ouais.
On les voit plus souvent, on voit aussi qu'il y a des entreprises qui valorisent beaucoup ces produits-là, comme par exemple le marché Walbert, ici, qui valorise les produits qui sont faits ici. Moi, je trouve ça très intéressant.
Nous, on a fait une émission de télé avec. On valorisait les produits locaux, hein?
Oui! J'ai hâte d'essayer là, la soupe à l'oignon.
Mais tout était très bon. Hein? Moi, j'ai mangé comme un fou.
Donc, c'est à table avec les chefs?
Non, c'est la table au goût du lac.
La table au goût du lac.
Oui.
Donc,
les chefs
notre
locaux
émission
et des produits locaux. Non, mais on se fait de l'autopub.
Ben oui, c'est normal.
Les autres, nous, ça ne faisait pas ça.
Non. Comme si je ne me sentais pas à TVA pour Radio-Canada parce qu'on a fait un petit peu d'autopromotion. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que il y a un créneau qui a été malmené aussi au cours des dernières années, qui était l'industrie laitière. Puis Nutrinor, on la connaît beaucoup pour l'industrie laitière. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a une diversification aussi au lieu d'être juste des produits laitiers. Moi, qui est de l'extérieur, je vois ça comme ça. Mais là, on va vers d'autres animaux qui ont un bon potentiel d'être bien traités. C'est quand même le sujet de la volaille. Pendant longtemps, était les conditions de salubrité et autres. Donc, aller vraiment contre les antibiotiques. Contre les antibiotiques, ça, il faut savoir que au gouvernement du Canada, il est interdit d'avoir des viandes avec de l'antibiotique ou du lait avec des antibiotiques. Donc, dès qu'un animal est traité avec des antibiotiques, il est rejeté de la gang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces dans le sang. Automatiquement, peu importe l'animal. Même le lait, tout, ça arrive des animaux qui ont besoin d'être traités aux antibiotiques, mais on ne peut pas vendre leur viande, on peut pas... Faut pas abuser.
Oui.
C'est bien intéressant. Donc, c'est le fun de voir que Nutrinor diversifie ses produits, parce que moi, ce que j'entendais souvent, c'était Nutrinor Énergie.
Oui. Donc, bien, c'est la filière, je pense, qui est le plus rentable, avec le sens.
Donc, les différentes sources d'énergie pour...
Mais tu sais, pensez à ça quand vous allez justement faire votre plein d'essence, vous encourager une entreprise locale quand vous allez chez Nutrinor Énergie. Quand vous allez à l'épicerie et vous achetez de la bière de microbrasserie du coin, du fromage du coin, du beurre du
les
coin,
les sacs
des
de lait Nutrinor,
les œufs, le lait, écoute, on a tellement de beaux produits, puis sont, tu sais, les charcuteries comme chez Besson, chez... encourager les gens d'ici parce que on...
Et ça, je peux le dire. Moi, quand je pars du lac pour aller voir ma famille, j'ai souvent des commandes Besson ou du fromage de Saint-Prime. Donc, soyez fiers de vos produits locaux parce que c'est le meilleur produit pour exporter le lac.
Non, mais c'est vrai.
As-tu vu passer le concours du coureur des bois il y a 2 semaines?
Non.
Ah, ça, j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. Pas que c'est la mienne, mais... mais
bravo,
c'est une très...
Félicitations pour ton idée. C'est quoi déjà cette idée?
C'est un concours Facebook avec le coureur des bois. C'est le coureur des bois qui a apporté l'idée. C'est avec Ose le pays des bleuets. C'était Surprends ton bleuet. Surprends ton bleuet, c'est qu'on invitait les gens du lac Saint-Jean à dénoncer ou à trouver un bleuet qui a quitté la région, mais qui est encore attaché à la région.
Ah oui.
Donc, dénonce ton bleuet, surprends ton bleuet. Puis cette année, ça a été Mme Isabelle Gauthier qui a gagné parce qu'elle a eu quand même 3 personnes qui l'ont nommée. Elle dit une Jeannoise rialaise m'en vôtre. C'est ça, elle est fière d'être du lac avec tout ça. Dès qu'elle est à Montréal, dès qu'elle a l'occasion, elle met quelque chose de visuel à propos du lac Saint-Jean. Donc, il y a différentes façons d'exporter notre territoire parce que ça fait un lien avec notre premier sujet. Soyez-en fiers.
Ben oui,
soyez fiers de ces développements-là.
Quand moi, je vais dans ma belle famille à Montérégie, je ramène du sirop d'érable parce que c'est ça qu'ils produisent. Mais quand ils viennent ici, ils repartent avec des tourtières. C'est un équilibre.
Oui, oui.
Parlons maintenant d'un nouveau programme. Je trouve ça très intéressant. Métier-études. On connaît le sport-études, l'art-études, langue-études. On va permettre à des étudiants qui ont terminé leur secondaire 3 de terminer leur secondaire 4 et 5 en 2 ans et demi, mais en ayant, au bout du compte aussi, leur DEP. Le projet, c'est en mécanique.
Ah!
Oui, mais c'est génial parce que, bon, c'est un peu plus long, là, mais tu sors avec 2 diplômes. Donc, ton diplôme de secondaire 5, qui est utile et reconnu et t'en as besoin souvent, et en plus, un diplôme d'études professionnelles en mécanique. Puis là, si ça va bien, il y aura probablement d'autres programmes, mais à date, les inscriptions sont...
La dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, on parlait de la semaine de la persévérance scolaire. Mm-hmm. C'est un outil extraordinaire de persévérance scolaire parce qu'on a... On ne se le cachera pas. Secondaire 4, secondaire 5, on parle des maths 436, on parle des choses qui deviennent un peu plus abstraites sur le développement, sur à quoi ça va nous servir. Donc, les relations.
Moi, le cosinus, je m'en sers tous les jours.
Mais ça reste quand même que là, on est capable de. Les étudiants, ils ont de quoi se rattacher.
Oui.
Ils ont de quoi se rattacher, ils ont de quoi être fiers, ils ont de quoi à faire des liens. Sur qu'est-ce qu'ils vont faire de manière directe dans leur travail. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le métier qui a été choisi, c'est un métier qu'on est en grave pénurie.
Mm-hmm.
Donc, ça... C'est...
Ben, je pense que c'est... Donc, l'idée, ça va être de créer des mécaniciens, mais en plus, des gens qui ont des secondaires 5. Donc,
puis, ça va leur donner l'outil de dire, si je veux aller plus loin après... Parce qu'un DEP, c'est pas une fin, là.
Mais c'est pas nécessairement...
C'est pas absolument une fin. Puis avec ma carrière, le projet Ma carrière des CFP de la région, on voit que le DEP n'est pas une fin en soi. Au contraire, donc je trouve ça super intéressant. Ça garde la motivation. Moi, je vois des jeunes puis des moins jeunes autour de moi qui se disent « Ah, ben tabarnouche, je vais joindre mon outil à l'agréable parce que le secondaire 5, il y en a qui... C'est rendu nécessité au niveau des assurances de bien des entreprises, que tu sois à l'usine ou peu importe, il te faut ton secondaire 5. Mais si tu n'as plus la motivation, c'est vraiment dur d'aller chercher son secondaire 5.
Ce que j'entendais ce matin en entrevue, c'est un jeune homme qui disait « Moi, j'ai fait du sport-études parce que être assis en classe toute la journée, je n'étais pas capable, donc j'avais besoin de bouger, de faire quelque chose. Et là, c'est parfait pour moi parce qu'à travers mes cours, je vais aussi pouvoir apprendre, mais être sur le terrain, gosser, là,
avoir les mains,
dedans. Donc, ça va lui permettre de finaliser ses études parce que si on l'avait obligé à être dans...
Assis dans la classe.
Ben, probablement qu'il aura abandonné. Là.
Non, c'est sûr. Donc, moi, je suis bien contente aussi parce que le taux de décrochage scolaire est beaucoup plus élevé chez les garçons que chez les filles. Puis, bien des gens pensent que le système... Puis ça, j'ai pas de chiffres, mais c'est vraiment... J'ai vu souvent des recherches, il faudrait que j'arrive avec les chiffres une bonne fois, mais qui disaient que c'était le système d'éducation était plus adapté aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Donc là, plus les solutions, on les voit arriver, plus on voit que c'est... Tu sais, la mécanique, c'est classiquement... pour les garçons.
Des préjugés.
J'ai dit classiquement, et je crois qu'au contraire, il y a bien des femmes qui seraient bien intéressées à avoir ce cours-là. Moi, je serais la première, pas pour travailler là-dedans, mais être capable de faire mon propre changement d'huile, je serais curieuse d'être capable de le faire.
Ouais.
Mais j'ai plus de changement d'huile à faire parce que j'ai un auto électrique. Mais vous comprenez que je trouve ça bien intéressant d'adapter, d'avoir plusieurs trajets possibles pour les étudiants. C'est plus le trajet classique, ton secondaire 5, après ton secondaire 5, tu as le DEP, après technique. Non, tu es capable, tu as plusieurs choix, tu as plusieurs possibilités selon le parcours que tu veux faire.
Mais anecdote, là, mon garçon rentre au secondaire et là, il m'expliquait tous les choix qu'il avait. Puis là, il se posait des questions. Puis là, tu sais, il faut pas que ça t'angoisse. Tu es tellement chanceux. Moi, dans mon temps, tu avais un programme, puis ça finissait là. Tu fais ça ou tu lâches l'école.
Non, c'est ça. Puis c'est là qu'il faut lever le chapeau aussi au personnel non enseignant de nos systèmes d'éducation, parce que c'est eux qui vont aider. Dire, ah, tu vois-tu que tu as un peu de misère là-dedans? T'sais, il y a l'alternative.
Ouais.
Tu sais, c'est surtout ça. Là. Moi, je trouve ça bien intéressant que les jeunes, aient accès à cette diversité-là. Mais trop de choix, tu as le choix. Faut faire attention des fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à nos professionnels dans le domaine de l'éducation pour accompagner nos jeunes vers le parcours qui leur convient.
Oui, comme quand moi, en choix de carrière en secondaire 1, j'avais fait un petit test et le bilan, je devais être dans la vie devenir clown.
Ah, toi aussi!
Toute ma vie. J'étais là, mon Dieu Seigneur.
Moi, en première année, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus grand. Je fais clown.
Première année, non, mais moi, je remplissais des tests là, scientifiques et là, quand le papier sort, tu devrais être clown. Je fais, mon Dieu, ma vie va être belle. Mais en même temps, je suis un peu clown ici.
Ben moi, on m'a donné psychologue, travailleuse sociale, technicienne en énergie nucléaire et clown.
Ah, tu vois?
C'est
un mélange. Restons dans l'éducation. On va s'en aller à l'UQAC qui va octroyer deux doctorats honorifiques à Fabienne Larouche et à Philippe Couillard. Donc, non, mais c'est intéressant. Je veux dire, un doctorat honorifique, ça sert fondamentalement à rien. Là.
Ça sert à promouvoir l'université.
Oui.
C'est l'université.
Puis aussi à dire à des gens, ben bravo pour votre parcours. Puis là,
on reconnaît votre expertise.
Oui.
C'est plutôt... c'est pas le parcours du doctorant classique, mais c'est démontrer l'expertise que la personne a acquérie par son expérience de vie.
Puis je trouve ça intéressant parce que, bon, on choisit un homme et une femme. Ensuite, on choisit des gens qui viennent de la sphère, bon... politique culturelle. Et scientifique et culturelle, sciences sociales de l'autre côté. Donc, on va chercher un large éventail de disciplines en lien avec l'université, en fait.
Oui. Puis, on a quand même la chance aussi que ces personnes, ben, M. Couillard et Mme Larouche, soient quand même attachées à notre territoire aussi. C'est ça qui est intéressant.
M. Couillard vient pas d'ici.
Non, mais il est attaché.
D'habiter ici. Puis, Fabienne Larouche vient d'ici. Puis, elle dit, puis elle en est fière de la région. Là.
Mais c'est pour ça que je dis attachée. C'est pour ça que je dis attaché à la région. C'est ça, là, chers bleuets, soyez fiers de vos néo-bleuets aussi.
Tu parles de toi?
Pourquoi je parle toujours de moi, tout le temps, tout le temps? Non, non, au contraire. Il y a plein de gens qui s'attachent et qui adorent le territoire ici.
Ma conjointe.
Monsieur Couillard, qui a décidé de venir s'établir puis de faire ses différents mandats ici, là. Et à force d'être sur le territoire, bien, il n'y a plus le goût de partir.
Et voilà. On aime ça vivre ici. Hey, nous, on s'arrête brièvement pour une courte pause et on vous revient tout de suite après la pause avec la suite de l'actualité. On va aller au niveau national et international. Plein de nouvelles encore. Restez avec nous.
Les organismes famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifiez Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 418-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic « Certifié famille MC ».
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3$ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.
Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne.
Je l'ai tout de suite remarquée, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, j'avoue, comme amie.
Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants.
Pour moi, bien, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie.
Donc, on est de retour. On va continuer. Hein? Revenons à la crise autochtone. Il y a des développements qui sont arrivés ce week-end. Donc, il y a eu des négociations. Ça commence à être le temps là, qu'on s'assoit et qu'on discute. Il y a une proposition qui est faite. Là, maintenant, c'est si j'ai bien compris, ce sont les communautés, les chefs autochtones et leurs communautés qui vont devoir s'asseoir et réfléchir si ça fait leur affaire ou pas.
Le dossier n'est pas encore fermé parce qu'au moment où on enregistre l'émission, on n'a pas encore les données exactes de qu'est-ce qui a été discuté. Quels sont les éléments?
On n'aurait pas de
non,
lien
c'est
sur
ça.
L'entente
tant qu'elle ne sera pas acceptée.
Oui, c'est ça.
Puis c'est tout à fait raisonnable et respectable, ça. Ça ne veut pas dire que les blocages vont arrêter au moment où on enregistre. Mais déjà, le fait qu'il y a eu quand même 3 jours de négociations intenses avec les représentants, comment on appelait ça? C'est les gens choisis par la communauté. On ne parle pas des chefs de bande. On parle vraiment...
Les chefs autochtones traditionnels.
Les chefs héréditaires.
Ouais.
C'est ça, les chefs héréditaires. Donc, c'est déjà bien intéressant. Puis, ce qu'on peut dire depuis la dernière mission qu'on a faite à toi et moi, c'est que là, le sujet, la raison du blocage a été de plus en plus clair dans les médias aussi. Mmh. Les conditions de vie dans les communautés. Donc, on parle vraiment plus de la réalité autochtone. On a passé l'image du blocage. On a passé pour la réalité autochtone. Donc ça, c'est déjà une bonne avancée au niveau de nos médias, pas au niveau de notre sensibilisation face à ce problème.
J'entendais aussi que les autres communautés qui bloquent, entre autres en Ontario, au Québec, disent on attend de voir qu'est-ce que la nation Wet'suwet'en va décider.
Puis en appui.
S'ils nous disent on enlève les barricades, on les enlève.
Bien, c'est ce qu'on appelle la solidarité.
Ouais.
Puis moi, je trouve ça très, très... je ne sais pas comment je pourrais dire ça de manière polie, mais j'en suis limite jalouse. Parce que c'est une solidarité à des communautés. Il y a des communautés là-dedans qui ont déjà les droits que les Wet'suwet'en veulent, mais qui disent « on vous laisse pas tomber, vous méritez ». Puis c'est une solidarité que bien des communautés à travers le Québec devraient vivre entre eux.
Ouais, nous, ce qu'on voit plus en nous de la solidarité, c'est « sois solidaire quand ça me touche », mais moi, je serais pas nécessairement solidaire quand ça te touche.
Non. Mmh. Puis on parle de communautés qui sont pas en contact. Qui sont en contact, oui, en tant que Première Nation, mais on parle pas, c'est pas des communautés qui ont des routes rattachées ou qui ont les mêmes, le même secteur économique ou le même territoire. Non, au contraire.
Ils ont des colliers, tu peux pas ensemble.
Mais c'est quand même quelque chose que je trouve formidable, de la solidarité entre les différentes communautés, mais aussi les alliés des communautés autochtones. Puis il faut bien le signifier alliés.
Oui.
Les alliés, on a vécu une situation, on a eu le blocage à Saint-Lambert. Il y avait 0 autochtones dans les blocages. Ils n'ont pas été appréciés par les autochtones. Pour une raison simple, c'est on n'a pas besoin de votre aide pour se battre. On a besoin que vous nous appuyiez. Oui, mais bloquez pas notre place.
Ouais.
C'est ça, être un allié. Donc ça, c'est déjà très important. Je crois pas que les blocages vont arrêter d'ici là. Parce que depuis le temps qu'ils se battent pour avoir des conditions de vie...
Là, on dirait qu'ils ont le levier. Là. Ils ont un bon levier, fait qu'ils vont aller chercher quelque chose.
Ils vont aller chercher quelque chose, mais je pense au moins qu'il y a une baisse importante de la tension.
Ouais.
De la tension qui était palpable, les risques de violence. Puis c'était pas de la violence envers les policiers, mais des policiers qui laissaient passer des gens pour venir foutre la merde. Dans les blocages.
C'est beau comment tu as dit ça.
Désolée, mais je ne trouve pas un mot plus parlant que ça. Moi, c'est un gros problème que j'ai trouvé. C'est quand les policiers laissent aller des gens qui savent qu'ils vont foutre la merde. Ça, j'ai un grave problème avec ça. C'est quand tu as un blocage puis que tu laisses passer une auto Puis dans l'auto, le gars sac déjà après, puis non. Non, non, non. Là, je trouve que c'est comment alimenter la violence.
Comment t'as trouvé l'intervention de M. Legault quand il est un peu accusé?
Ah oh, non, 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 non.
Ils ont des AK-47, eux autres. C'était une imitation.
Si... Non, 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 mais si on y va dans la même logique que M. Legault, on a tous un sous-marin dans notre cour avec un F-18. Parce qu'on est des Canadiens, on en a. Ouais. Donc, on a tout un potentiel d'avoir un sous-marin.
On fait encore les amalgames.
Ah non, les amalgames sont affreuses. Excusez, M. Legault, mais vous venez de faire la pire affaire de mon oncle comme premier ministre.
Oui, c'est un gouvernement qui est très paternaliste.
Ah non, mais... Domaines,
fait qu'il continue de...
Ah non, mais là, c'était mon oncle, là. C'était... OK, vous venez carrément de scraper votre lune de miel, là. Vous avez une des lunes de miel. Moi, depuis que j'ai conscience, depuis que j'ai conscience de la politique, vous aviez la lune de miel la plus longue que j'ai vue, là. Depuis que j'ai conscience du milieu politique, puis cette réponse-là, j'ai fait « Et on part de loin. Et qu'on part de loin. » On alimente, on ostracise encore des communautés qui... Oh, ah non, c'est
moi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est qu'il s'est régulièrement mis le pied dans la bouche depuis qu'il est en politique, mais il a toujours eu la décence de s'excuser et de reconnaître des fois qu'il avait tort. Et là, il ne veut pas s'excuser. Je trouve que c'est
qualité. Ah non, mais là il avait menacé de poursuivre le Journal de Montréal pour avoir déformé ses propos. Excusez, mais vous êtes en politique. Monsieur Legault.
Oh, oui, non.
Faut faire attention à chacun de nos mots. Puis c'est sa source d'information qui m'a le plus découragée. Hein? Par Facebook.
Ben,
Non. Le monsieur Legault.
C'est quoi Facebook, ça?
Que c'est un réseau social et non un média social. Hein? Mmh. On va mettre ça tout au clair. Ça veut dire que les personnes qui vous partagent des informations, c'est parce qu'ils sont d'accord avec vous que vous les voyez.
C'est ça, à cause de l'algorithme.
C'est l'algorithme. J'étais complètement sans dessous-dessous. J'étais en beau temps.
Ouais.
Trois petits points quand j'ai lu ça, parce que j'ai fait... OK, toi, t'as encore le stéréotype là, que de l'Autochtone ultra-agressif qui se dit « On va gagner seulement avec les armes. »
Puis ça se peut qu'il y en ait là, à travers tous les Autochtones, mais là, c'est vraiment faire un amalgame.
C'est un amalgame énorme, parce que... Un AK-47, déjà, c'est illégal au Canada. Donc ça, c'est parce que c'est une arme automatique. Donc ça, c'est... Mais combien... De gens dans la MRC Maria Chapdelaine sont propriétaires d'une arme à feu. On est-tu des fous?
Ouais.
On est-tu des... Non, là, tu viens de faire un amalgame avec une arme qui fait peur aux gens qui n'ont jamais utilisé d'arme de leur vie. Donc là, t'arrives, t'alimentes double, triplement la peur en accusant avec... Parce qu'AK-47, ça veut dire guerre. Ça veut dire mitraillette.
Ouais, c'est l'arme que...
L'arme préférée des assauts.
Du 20e siècle.
Oui, mais c'est des assauts dans les écoles aux États-Unis. Plein de choses, là. L'AK-47 fait peur. Le terme AK-47 fait peur. Donc là, t'arrives, puis tu alimentes un problème de société en utilisant un terme qui est déjà très fort, qui fait peur à bien des gens.
Oui, mais...
Pour ostratiser une communauté à l'intérieur d'une autre communauté dans des médias qui ne font aucune distinction et que c'est noir ou c'est blanc.
Non, puis les médias, moi, je les trouve atroces. Là, on ne fait que charroyer de la peur, là, puis ça nous aide jamais à régler des problèmes.
Non! C'est... Je suis...
À quoi changer de sujet, comme ça va te permettre de te calmer.
Oui.
Je vais te parler d'un sujet qui va sûrement te relaxer. On va parler de Greta Thunberg. Parce qu'il est arrivé quand même quelque chose de particulier, là.
Hein? Ah non, là, c'est rendu une habitude à l'émission, hein? Deuxième partie de l'émission, on me met sur mes grands chevaux, parce que Greta Thunberg a été victime indirectement, parce que c'est pas elle qui a été désignée officiellement, mais une compagnie, plutôt les employés d'une compagnie pétrolière en Alberta, a fait un logo où c'est une femme avec des tresses qui se fait violer. Donc, on sait que les tresses sont représentent beaucoup Greta Thunberg. Mmh. Donc, l'amalgame était facile à faire et très rapide à faire. Donc, là, on parle de violence,
ah, non.
Pédophile, dans le cadre d'un combat écologique. Donc, une jeune femme de 16 ans qu'on représente parce qu'on est choqués, parce qu'elle touche à nos valeurs pétrolières. J'étais en beau temps.
T'as le droit de pas être d'accord avec elle, là, mais il y a quand même une limite à la décision.
Ah non, ça. Non, là, c'est... Quand c'est rendu que l'entreprise pétrolière dit « On n'a jamais été rattaché à la création de ce logo-là parce que c'est indécent, ça n'a juste pas d'allure, OK? Je veux rester poli, là. » Mais c'est indécent, c'est de la violence, c'est parce que c'est une femme, c'est de la violence parce que c'est une jeune, parce que c'est une écologiste. On y va dans une montée de violence inouïe.
On polarise. Aussi les médias ont leur rôle là-dedans.
On polarise beaucoup. Puis c'est un logo qui n'a pas sa place, ça l'a juste pas sa place. Mais il y a quelque chose que moi, je dois souligner de la part de la jeune femme face à ça, c'est sa réponse. On a beaucoup entendu parler, mais je pense que sa réponse, c'est extraordinaire. Greta Thunberg est arrivée et a dit « c'est la preuve qu'on gagne ». C'est la preuve que le combat, il fait peur aux personnes qui doivent faire peur. Parce que lorsque tu es rendu que tu t'attaques à l'intégrité physique de l'individu et non à ses propos, c'est que tu n'aurais plus rien à dire contre ses propos.
Ben, de toute façon, la science
Mais ça n'empêche pas que la personne qui a créé ce logo-là, j'espère qu'elle va être poursuivie en justice. Parce que c'est de la violence. C'est... oui, je veux faire... les gens... Il y a des gens qui vont paniquer parce que j'ai utilisé le terme violence, mais c'est quand même de la violence.
Oui.
C'est de la violence.
Incitation à la haine, c'est... incitation au viol, incitation à la pédophilie, incitation à...
Tu sais, non, c'est... Puis, des gens ont collé ça sur leur auto. En Alberta... On parle pas d'une joke sur Internet. Non, il y a des gens qui l'ont imprimé, puis qui l'ont collé, puis étaient fiers. Fiers de démontrer, de montrer une agression sur une jeune femme qui a des propos différents.
Oui.
Non, c'est... Ça, je sais pas où est-ce que ça s'en va, le monde, pour qu'on soit rendu à faire des représentations comme ça. Alors que c'est le sujet de l'art depuis MeToo, sur plein de choses que les femmes, le droit... C'est comme ce logo-là m'a comme mis devant un fait que ça rassemblait toute la haine face aux sujets de société qu'on a présentement. La liberté des femmes, l'écologie. Il y a plein de choses qui ont été résumées là-dedans, puis ça m'a comme...
Écœurée, dégoûtée,
enragée.
Horripilée.
Ça m'a enragée. Ça m'a enragée parce que, même si c'est en Alberta, toute la représentativité, toute l'iconographie qui a été utilisée là-dedans représente les combats que toute une génération de femmes comme d'hommes qui se battent. On vient le dénigrer et on vient utiliser une violence qui est débattue depuis des années. Je me souviens quand on a parlé au début de l'émission, je disais on n'en parlera pas longtemps, mais plus j'en parle, plus je suis enragée face à toute l'utilisation, toute l'iconographie là-dedans et contre le fait d'une femme jeune qui se bat pour ses idéaux puis qui représente une génération.
Oui.
Mais qu'on utilise...
Et qui base son argumentaire sur la science, contrairement à beaucoup de personnes qui sont
puis
contre elle, qui
basent leur argumentaire sur pas grand-chose. On vient l'agresser psychologiquement, on vient faire une violence psychologique sociale sur une intégrité physique. Imaginez si c'est votre fille ou votre mère qui est dans ce dessin-là.
Non.
Puis on n'aurait même pas besoin de devoir imaginer si c'était un membre de notre famille.
Moi, ce que je trouve le plus débile, c'est qu'on soit rendu... On en parle, là, parce que ça arrive, mais je veux dire, il me semble que ça devrait plus arriver.
Ça devrait pas arriver. Puis les personnes là, qui sont fières de ça, là, excusez-moi, là, je ne connais même pas quel argumentaire parce que je trouve ça débile. Je trouve ça, ça... Vous avez plus d'argumentaire pour dire « Ha, 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 c'est une blague! » Il n'y a pas de blague à faire sur les agressions sexuelles. Il n'y a pas de blague à faire sur le fait d'attaquer quelqu'un physiquement parce que t'es pas d'accord sur son opinion. Ce n'est pas une preuve d'intelligence. Ce n'est pas de l'humour noir.
En fait, c'est une preuve d'idiotie.
Je suis une amateur d'humour noir et ce n'est pas de l'humour noir. Non! C'est carrément de l'agression, c'est de la violence. Puis si vous continuez à propager cette violence-là, on est rendu où? On est rendu où dans la communauté? Il y a d'autres façons de présenter son point. être obligé d'utiliser une violence visuelle comme ça qui va rester marquée, là. Vous avez bien beau dire, là, ah, ça fera... Non! Les gens qui l'ont collé sur leur auto, ça va continuer à se propager, là. On a bien beau avoir parlé dans les médias à quel point c'est stupide, ça veut pas dire que les gens vont l'enlever. Réagissez un peu, là. Puis, on a bien beau ne pas être à côté, là.
Montrez-vous plus intelligent que le débat, mon Dieu Seigneur.
Puis, ne laissez pas passer ce genre de comportement-là dans votre entourage. Ah, ça va passer. Il faut se méfier des idiots, parce que c'est ce qui est arrivé, on en a eu un à Maison-Blanche. Il faut se méfier des idiots. Faut arrêter de se dire, ah, ça va passer, ils vont apprendre par eux-mêmes. Non.
Se méfier des idiots? J'espère que ma femme n'écoute pas en ce moment.
Merci de désamorcer.
Super, hein? On va parler de quelque chose qui va sûrement te fâcher. On va parler des courses aux chefferies en ce moment. Parce que, écoute, ça s'en vient, mais il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose.
Non.
D'un côté, on a vu une offensive de Sylvain Godreau qui va ramasser ses signatures. Il devrait l'avoir. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est bien lui. Donc, on est là-dedans. De l'autre côté, au niveau du Parti libéral, on a Mme Dominique Anglade qui a fait une sortie, entre autres, avec les régions, qui a reconnu que le gouvernement Couillard était peut-être allé trop loin en enlevant des leviers aux régions. Là, on parle de la CRI,
la disparition de bien des CLD.
Oui, des CLD, etc. Fait qu'on a ça, puis elle a dit qu'il y aura un nouveau pacte avec les régions si elle est élue, si, entre guillemets, donc il se passe pas grand-chose. Et surtout, la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.
Là, et comment t'as-tu parlé?
Ah, non, mais 8 candidats confirmés, dont 6
qu'on connaît pas au Québec.
Qu'on connaît pas, et 2 qu'on a déjà entendu parler. Ça va être d'une platitude, cette course-là, là?
Bien, je pense que toutes les courses, là, à part la course du PQ, qui est un humoriste qui est dedans, là.
Ça n'arrive pas, hein?
Je n'ai pas grand intérêt.
Bon, c'est bon, on en a parlé. Ouais, allons maintenant du côté, tant qu'à parler de courses intéressantes, il y en a une intéressante, mais elle se passe au sud, aux États-Unis.
Oui.
C'est les primaires démocrates, ça brasse. C'était la primaire de la Caroline du Sud samedi dernier. Joe Biden l'avait dit, hein, moi, ma campagne va commencer là, même d'ailleurs au New Hampshire, puis en Iowa, il n'avait pas fait nécessairement campagne. Il attendait, il a remporté haut la main, Bernie Sanders fini deuxième. Donc, ça relance la campagne de M. Biden qui a toujours dit « Moi, je vais être la voix des minorités. » Coup de théâtre, Pete Buttigieg qui avait comme remporté la première primaire en Iowa.
On parle quand même d'un homme surdoué, très développé intellectuel. 38 ans, impliqué.
Le premier candidat homosexuel avéré. Là, donc,
oui, c'est souligné.
Puis là, il se retire de la course en disant non, l'objectif, c'est de battre Donald Trump. Il faut fédérer le parti autour du centre. Donc, je pense que c'est un peu un message.
Bien, étant donné que les deux candidats, Bernie Sanders et Joe Biden, on parle quand même de... deux piliers du Parti démocrate.
Deux bonhommes aussi. Parce
deux
que,
bonhommes.
Des bonhommes qui ont 70 ans passés. Là.
Oui, mais on parle, Bernie Sanders est quand même très représentatif de la jeunesse américaine.
Oui, non, quand
même. Hein? On dit les vieux bonhommes, là, mais les vieux bonhommes, c'est pas dans le cœur.
Mais moi, je pense que Pete Buttigieg a fait comme, il va laisser passer mon tour, là, mais à la prochaine
élection. Il est encore jeune, là.
42 ans, là, peut-être que...
Il est encore jeune, il y a plus de chances. Puis, vaut mieux aussi se faire des alliés dans cette course-là.
Et aussi, c'est que mardi, demain, c'est le super mardi, donc il y aura 14 ou 15 États qui vont voter, mais qui représentent 30 ou 35 des délégués. Donc, des gros États, on parle de Texas, on parle de Californie, où d'ailleurs Bernie Sanders sera en avance. Donc, il pourra aller chercher. Tu sais, il y a 1300 délégués là, qui vont être...
appelés aux urnes.
Appelés aux urnes. Donc... je pense que mercredi, là, ça va brasser, puis il y aura sûrement d'autres réalignements. Là. Il y a sûrement d'autres gens qui vont quitter la course, puis on va sûrement se retrouver à la fin avec une course à deux, trois. Là.
Oui, puis...
Mais non, Elizabeth Warren a dit « Moi, je vais jusqu'au bout, parce que tant qu'on n'est pas au... » Fait qu'elle, elle va rester jusqu'au bout, mais à date, elle a peu de chances de remporter, là, parce que...
Mais ça n'empêche pas que c'est important, selon moi. Puis c'est...
Pour la démocratie.
La démocratie, la représentativité, puis moi, je trouve que c'est bien intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de suivre cette course-là que celle qu'on vit au Québec.
Parce qu'on a un réel débat gauche-droite aussi, parce qu'à l'intérieur du Parti démocrate, qui a toujours été un peu centre-droit, là, maintenant, il y a l'aile Bernie Sanders qui est plus à gauche. Donc, on a un vrai débat, plutôt que... débat. Moi, je me rappelle les débats stériles des Républicains où tout le monde est à 13 à droite, où au bout du compte, on est d'accord avec tout, mais on fait juste s'insulter. Là, j'ai l'impression qu'on a un réel débat de fond.
Bien là, c'est ça. C'est un débat sur les idées plutôt que sur les personnalités. Donc, ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la politique de voir ça sous cet angle-là.
Bon, fait que à suivre, hein?
Oui!
Je pense, parce que là, il nous reste pas tant de temps, puis je veux qu'on parle aussi de, d'autre chose.
non, je sais quoi on va parler.
Coronavirus, parce que, là, moi, ça me fait halluciner, c'est en ce moment, la peur. Hein? Là, on crée des zones de peur, les médias tablent là-dessus. Là, écoutez, moi, la nouvelle qui m'a fait le plus rire cette semaine...
Rire jaune,
c'est que...
La bière,
la compagnie Corona a perdu beaucoup de ventes parce que les gens associent la Corona au coronavirus. Hey! Pas parce que quelqu'un achoum et qui boit une Corona qui a le coronavirus. C'est complètement débile comme réflexion. Je peux pas croire, mais clairement, on voit les chiffres, là. C'est fou.
Et en plus, on parle du Corona qui vient du Mexique!
De la Corona
qui vient du Mexique. On parle d'un coronavirus qui est un terme pour parler des rhumes qui vient de la Chine.
Ah ouais, puis là...
On parle même pas du même continent. On parle même... C'est de l'autre côté, chacun de leur côté, du plus grand océan du monde.
Puis l'affaire aussi là-dedans, c'est que, bon, on le rappelle, le coronavirus, là, c'est très contagieux, mais c'est vraiment moins violent qu'une grippe qu'on a depuis des décennies, des centaines d'années ici.
Au moment où on enregistre, il y a 2000 morts par le coronavirus au monde. Sais-tu combien il y a de morts de la grippe saisonnière au Canada?
Non.
6 000.
Ben oui, tu vois. Non, mais là...
On parle du Canada!
Mais les gens, on
en Europe,
sont pas capables de faire la part des choses.
Ben, c'est que moi, je me demande... Il y a une phrase qui est sortie sur Internet qui m'a fait incroyablement rire.
Oui.
Vous vous souvenez, dans les années 90, on se disait que c'était le manque d'accessibilité à l'information qui rendait les gens cons. Depuis que l'Internet est arrivé, on sait que c'est pas ça. Continuons à chercher.
Ouais.
C'est parce que c'est se donner accès à l'information puis avoir la curiosité d'aller chercher l'information où elle est pertinente. Le coronavirus, c'est pas parce que ça porte le même nom que ça a la même incidence.
Mais par rapport à ce que tu dis, j'aimerais ajouter un petit quelque chose. Si là, vous lisez un article qui vient... si vous lisez un article qui n'est pas d'accord avec votre point de vue, là, souvent vous allez le critiquer, vous allez trouver les failles. Mais si vous lisez quelque chose qui vient conforter votre point de vue, là, vous devriez avoir une petite lumière rouge. Je dis attention, là, ça me flatte dans le sens du poil. Peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être que la source n'est pas bonne.
Il n'y a pas juste à flatter dans le sens du poil. Celui qui va chercher directement notre émotion aussi. Quand dans le titre, là, puis tu dis le titre est tellement fort que je vais partager, puis tu lis, puis finalement c'est pas ça,
puis surtout des sites de fausses nouvelles, mon Dieu. Je vois des gens qui partagent des absurdités. Là.
Dans tous les sites, dans tous les articles professionnels qu'on voit là, puis je souligne professionnel, là, on parle pas de chroniqueur, on parle de journaliste. Chroniqueur, c'est celui qui va donner son opinion, sa version des faits, comme moi, je suis une chroniqueuse à l'émission aujourd'hui.
Mm-hmm. Moi aussi, chroniqueur-animateur.
Chroniqueur-animateur, oui. Bien, le journaliste qui va avoir fait ses recherches et qui va nommer dans son article ses sources. Celui qui est à la fin, tu vas pouvoir cliquer sur un autre lien pour aller confirmer.
On peut valider. Les études.
Puis quand vous voyez une image, vous pouvez faire une image, une recherche inversée sur Google. Là, tu sais, on ne parle pas de site obscur là, pour aller chercher des informations. Là. Je vous dis juste de taper le titre ou aller... Vous auriez cherché quelqu'un qui aurait vu coronavirus, puis tu mets sur Google, puis tu vas chercher sur des sites que tu sais que c'est diffusé à la télé ou autre. Puis t'es capable de dire, ah, OK, l'OMS. Si tu vas sur le site de l'OMS puis tu vois coronavirus, là, tu vas pas voir une bouteille de bière, là.
Non, c'est ça.
Tu vas voir COVID-19, tu vas voir c'est quoi les vrais chiffres, tu vas voir c'est combien le taux de mortalité, parce que ça qui nous intéresse, c'est pas le chiffre là, de combien il y a de morts. Il y a combien de morts versus le nombre de personnes malades.
Oui, c'est ça.
Il y a ça aussi, là, tu sais. C'est ça qu'il faut prendre en compte.
Non, puis ça nous amène vers cette réflexion-là sur l'information. N'oubliez pas là, que pour avoir une opinion, il faut qu'elle soit basée sur des faits puis des données scientifiques. Donc, si c'est basé sur des impressions, moi, quand quelqu'un m'arrive avec une information, ma première question, c'est quoi ta source? Où t'as pris l'information? Ah, quelqu'un à shop qui m'a dit ça. Non. Ou j'ai lu ça dans une étude de l'Organisation des Nations Unies.
Je te dirais qu'il y a le « hein » puis il y a Parlons-en plus.
Ouais.
Parce que ici aujourd'hui, comme dans l'émission, ça arrive qu'on y va par nos perceptions, on appelle ça une opinion. Mais lorsqu'on arrive avec une opinion qui peut nous sembler faussée, ben, faut pas dire absolument à la personne t'as tort. Non. C'est as-tu cette information?
Ouais.
Parce que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui tient à se renseigner. Ça arrive à tout le monde de se renseigner aux mauvaises places.
Parce que si on se polarise chacun dans notre bord, il n'y a pas de débat.
Non. Mais se dire où est-ce que tu es allé chercher ton information? Ah, le gars de la shop t'a dit ça? Moi, j'ai une information contraire par telle place. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, au lieu de toujours attaquer la source, moi, je me souviens, et mon père qui écoute l'émission va s'en souvenir lui aussi.
On le salue.
Coucou, papa. Et ça a été notre plus grosse chicane à vie. J'étais carré rouge à l'époque.
Ouais.
Et mon père est un ancien policier.
Ouais.
Donc, tu imagines un peu les discussions à la maison pendant qu'on était carré rouge.
Et puis, il justifiait la violence policière.
Je rentrerai pas dans les détails. Je rentrerai pas dans les détails de l'émission, de discussion. Mais il est arrivé un moment où j'ai dit à mon père, papa, quelles sont tes sources? Et il m'arrive, Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA.
Ouais.
J'ai dit, papa, je t'ai demandé deux sources différentes, tu m'as donné les trois la même.
Ouais.
Et là, c'est là que t'attaqueras pas mes sources. Et ça a été la plus longue chicane de notre vie parce qu'après ça, et j'ai ça rarement vu ma mère lever le ton, c'était « Alain, t'as des commissions à faire, Joanie, tu t'en vas dans ta chambre. Je veux plus en entendre parler dans cette maison-là. » On s'est pas parlé pendant 6 mois.
Ah oui?
À cause de ça.
Est-ce que c'est réglé?
Oui, c'est réglé depuis. On parle juste plus de politique.
Mais il t'écoute quand même à l'émission?
Oui, il m'écoute quand même, puis on a des belles discussions après, puis il veut encore une tasse, mais c'est en édition limitée. Ça reste que attaquer les gens sur les sources, TVA n'est pas une mauvaise source en soi. Si on va juste chercher chez Québécois, par exemple, là, c'est un problème. On n'a pas de diversité.
Oui, diversifier ses sources, puis poser des questions, puis aller voir des études, puis lire plus que les gros titres mondiaux.
Puis les commentaires en dessous. Les commentaires, des fois, c'est encore pire. Il y en a qui se fient aux commentaires qui sont en dessous.
Ouais, ça vole pas.
Non. Coronavirus.
Hey, je t'arrête là-dessus.
Oui.
Moi, je veux juste parler de l'absurdité de la semaine. En Israël, 3e élection présidentielle en 1 an, parce qu'on n'est pas capable de former un gouvernement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais là, on a une élection encore. Hein, et Benjamin Netanyahou veut encore se présenter, veut encore devenir premier ministre président d'Israël et...
Chef d'État,
mais... Son procès commence, hein, il va avoir un procès criminel. Puis là, il veut se présenter. Si c'était au Canada, là, on n'accepterait pas ça, là, que
ouais,
quelqu'un soit candidat.
Mais aux États-Unis, la face orange est encore là.
Ouais, mais bon, on n'est pas aux États-Unis non plus. Là-dessus, bonne semaine. Merci, Joanie. C'était très
agréable. Merci, Pierre.
Hein, des belles montées de l'air. On aime ça. Et puis, on salue tout le monde. Et si vous avez des choses à nous dire, ben, écrivez-nous. Venez nous voir en studio.
On les lit.
Oui. Merci. Bonne semaine. Bye-bye.